France Inter.
France Inter, il est 13h. Et voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La France redécouvre le cimetière de ses rois, la basilique de Saint-Denis, objet de toutes les attentions. Coup d'envoi ce matin d'un chantier de 4 ans pour reconstruire sa flèche. Et nous verrons que la commune l'attend depuis des dizaines d'années. À suivre encore le Nutri-Score prolongé, nous verrons quel produit risque le rouge. La lutte contre la fraude sociale, 13 milliards d'euros récupérés l'an dernier, un chiffre en hausse. Là aussi ça grimpe, bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Le cours de l'or qui bat des records.
3 000 $ l'once ce matin. Guerre en Ukraine, bataille douanière, quand tout est incertain, Jérôme, les particuliers comme les banques centrales se tournent vers les valeurs refuges, car l'or ne fait pas faillite, a-t-on coutume de dire chez les investisseurs. Oui, mais est-ce vraiment une valeur refuge? Explication dans quelques minutes.
Vous nous répondrez dans quelques instants. Nous serons en direct d'Ukraine également. Les soldats ukrainiens ne croient pas à un cessez-le-feu côté russe. Nous verrons quels produits américains les Européens envisagent de taxer en réponse aux menaces sur nos vins et nos champagnes. Et puis nous reviendrons sur ce clash hier à l'Assemblée nationale. Bonjour Fanny Humbert.
Bonjour.
Lors de la commission d'enquête sur les agressions sexuelles dans le cinéma.
Il est l'un des hommes les plus influents du cinéma français. Dominique Besnéard a été auditionné hier. Il a réaffirmé son soutien à Gérard Depardieu et a déclaré que certaines actrices ont dépassé les bornes.
On revivra cet échange intense avec vous. À partir de 13h30, le duo comique le plus populaire du pays, 30 ans que ça dure, les Baudins avec nous, leur 4e film sort en salle mercredi prochain. 01 45 24 7000 pour vos questions et vos témoignages. Si vous êtes fan, venez nous le dire. 13h50, c'est la France. Le club de Metz et ses handballeuses fête ses 60 ans. Ce sera avec le journal L'Équipe. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Le mathématicien Cédric Villani avec Frédéric Pommier. Et nous écouterons du métal. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Anne de Bretagne, François 1er, Henri IV, Louis XIV, Louis XVI, entre autres, presque tous les rois et reines de France du 7e au 19e siècle y ont été inhumés. La basilique de Saint-Denis, au nord de Paris, occupe dans notre histoire une place prépondérante, mais elle n'attire chaque année que 140 000 visiteurs. Pire, elle est défigurée depuis près de 180 ans, 1846, et le démontage de sa flèche nord, fragilisé par un ouragan. Eh bien, la reconstruction de cette tour a débuté ce matin, après 40 années de débats. Bonjour Camille Marigot.
Bonjour.
Vous êtes sur place à Saint-Denis pour Inter. C'est la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a posé la première pierre.
Oui, à plus de 30 mètres de hauteur, après avoir donné quelques coups de ciseaux, cet outil pour tailler la pierre, sans oublier de glisser une pièce, comme le veut la tradition. Donnant donc le coup d'envoi de ce chantier, 180 ans après le démontage de la flèche, vous l'avez dit, un jour de fête, nous disait l'un des 130 artisans et apprentis qui vont travailler et apprendre donc pendant 5 ans sur ce chantier pour reconstruire à l'identique la flèche et ses 15 200 pierres avec les techniques de l'époque médiévale. En 2029, elle culminera alors à 90 mètres de hauteur.
Camille, la mairie de Saint-Denis tenait beaucoup à cette reconstruction. Il y a un fort enjeu local.
Oui, les Dionysiens que nous avons croisés la connaissent bien, cette basilique. Antonio est catholique, alors il la fréquente souvent, même quand il n'y a pas d'office, elle fait partie de son quotidien.
Comme aujourd'hui, j'étais en Calcan, de la famille, mais on a l'habitude de rentrer là-dedans, on fait une petite prière, on sort, on prend un petit café, voilà.
Victor, lui, ne rentre jamais. Pourtant, depuis qu'il est né, il la voit tous les jours, content que ce chantier arrive enfin.
Tout le monde se demandait si on la remettre debout. Ça fait partie du patrimoine français, quoi. Et c'est bien pour nous, pour la ville de Saint-Denis.
Et cette nouvelle flèche va faire venir du monde, espère ce gérant de café. Juste à côté, pour le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, il y a aussi un enjeu fédérateur.
Nous servons de la basilique, nous, avec les autorités ecclésiastiques, avec le CMN, pour être un fédérateur de toutes les communautés locales qui se retrouvent, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, dans un projet d'avenir qui, de ce point de vue-là, puise dans les racines de l'histoire de notre pays, racines politiques, racines religieuses, mais pour construire un projet fédérateur et du coup profondément républicain.
Et il compte notamment pour cela sur l'ouverture de ce chantier au public qui pourra bientôt assister notamment à l'atelier de taille de pierre.
Merci Camille Marigot, en direct de Saint-Denis avec les moyens techniques d'Hélène Langlois. Le patrimoine, ce sont aussi de bonnes surprises, comme ce tableau du grand peintre du 19e, Eugène Delacroix, découvert par hasard lors d'un inventaire dans une maison près de Tours, une huile sur toile précisément. Elle sera vendue aux enchères à la fin du mois. Valeur estimée entre 200 et 300 000 euros. Ce ne sont que 5 couleurs dans nos rayons, du vert au rouge, mais elles ont donné lieu à un bras de fer homérique ces derniers mois au sein du gouvernement, entre agriculture et santé notamment. Mais cette fois, c'est tranché. Le nouveau Nutri-Score est validé, malgré les réticences de l'agroalimentaire français, qui craint que ces produits ne soient pointés du doigt. Alors, l'objectif reste le même, alerter les consommateurs sur les risques de surpoids, d'obésité liés à certaines consommations. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Cette nouvelle mouture est plus sévère, plus exigeante que la précédente?
Oui, exactement. Ce nouveau Nutri-Score sera plus sévère à l'égard de certains produits alimentaires transformés. En fait, l'objectif est d'améliorer notamment la différenciation entre les aliments selon leur teneur en sel et sucre, et pour les boissons en prenant compte la présence d'édulcorants, mais aussi d'améliorer la classification des poissons gras, source d'oméga 3, et des huiles moins riches en acides gras saturés. Si cette évolution est soutenue par les associations de consommateurs, certains industriels sont eux plus mitigés. Contacté par France Inter, l'ANIA, Association Nationale des Industries Agroalimentaires, rappelle être pour la transparence sur les produits, mais souligne, je cite, les limites de l'algorithme et assure que les changements vont pénaliser les secteurs laitiers, charcutiers et céréaliers. De son côté, Karima Kassi de Pactalim représente dans l'alimentation les PME et les entreprises de taille intermédiaire comme Bigard, Andros, Bonduel ou encore Lustucru. D'après elle, le Nutri-Score doit évoluer encore davantage et ainsi
prendre en compte les spécificités des produits. Les catégories A, ce sont des produits plutôt bruts. Donc, à partir du moment où vous mélangez des ingrédients, même à la maison, vous allez forcément être B ou C. Vous ne pouvez pas comparer un poisson brut pas préparé avec une brandade de morue, puisque dans une recette, vous allez ajouter d'autres ingrédients et la note va changer par les ingrédients que vous allez apporter.
Côté grande distribution, plusieurs acteurs se montrent favorables à l'évolution validée ce matin. C'est une bonne chose, estime notamment le patron des mousquetaires Intermarché.
Luc Chemla pour ses précisions. Nous vous en avons parlé ici même ces derniers jours. Les protestations contre la carte scolaire pour la rentrée 2025, elles prennent de l'ampleur. Cette carte prévoit 470 suppressions de postes au niveau national dans le premier degré, soit près de 5000 fermetures de classes. Selon Guylaine David, la porte-parole du syndicat d'enseignants du premier degré SNUP-FSU, elle faisait un point sur ce dossier ce matin. La fraude aux aides sociales, elle est passée à une échelle industrielle. Voilà ce que dit ce matin la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, qui donne le chiffre de 20 milliards d'euros de fraude détectée l'an dernier, soit deux fois le budget du ministère de la Justice. Et elle parle notamment de l'intérêt de la criminalité organisée pour cette fraude. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
Alors est-ce qu'on cherche mieux ou est-ce qu'il y a plus de trafic? Toujours est-il que le gouvernement a détecté deux fois plus de fraude qu'il y a cinq ans.
Avec des moyens supplémentaires ces dernières années. 800 agents sur le volet fiscal, 1000 sur le volet social. Il y a aussi l'intelligence artificielle pour scanner au peigne fin de grandes quantités de données. La ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, veut garder le rythme.
Nous voulons doubler dans les 5 prochaines années ce montant de nouveau, puisque chaque euro récupéré, c'est bien un euro de plus pour nos hôpitaux, nos écoles, notre justice. C'est donc aussi un euro qui participera à réduire notre déficit.
Le problème maintenant, c'est de récupérer tout cet argent. Sur ces 20 milliards d'euros détectés, seulement 13 milliards sont recouvrés, un tiers de plus qu'il y a 5 ans. C'est long, complexe. Exemple, lorsque des entreprises disparaissent dans la nature après avoir touché frauduleusement des aides. Une proposition de loi doit arriver au Sénat pour régler ce problème. Si elle est votée, dès qu'il y a suspicion de fraude d'une entreprise, l'État coupera le robinet pour éviter de perdre définitivement cet argent.
Mathieu, je parlais du crime organisé, des narcotrafiquants bénéficient de cette fraude via le RSA par exemple?
Aux yeux de l'État, pendant leur trafic, ils n'ont aucun revenu et donc touchent parfois le RSA. Après leur arrestation, ça peut paraître surprenant, mais cet argent n'est pas forcément récupéré. Alors Catherine Vautrin, ministre du Travail, veut y mettre fin dans la loi narcotrafic avec un système automatique. Il n'y a pas de chiffres sur l'ampleur du phénomène. Et la ministre a une autre idée, des cotisations sur l'argent du trafic de drogue trouvé par la justice, comme toute entreprise, ce qui alimenterait les caisses de l'État pour les prestations sociales.
Mathieu Bonnour pour ses explications.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est une barre symbolique. Le prix de l'or a dépassé ce matin pour la première fois les 3000 dollars l'once. 3000 dollars pour s'acheter un peu moins de 30 grammes d'or, soit l'équivalent, pour vous donner une idée, d'un crayon de papier, mais en or évidemment. Agnès Subiran, on vous retrouve. C'est la conséquence, Agnès, de la situation internationale.
Oui, et plus particulièrement de la guerre en Ukraine. Le cours de l'or a commencé à grimper il y a 3 ans et l'impossible résolution du conflit alimente les inquiétudes, amplifiées ces toutes dernières semaines, parce que certains appellent la démondialisation, le retour de barrières douanières très fortes, avec un risque de ralentissement économique majeur. Le risque aussi de taxes douanières sur l'or lui-même, comme on l'a vu sur l'acier. L'or est donc plus que jamais perçu comme une valeur refuge. Les banques centrales achètent désormais près d'un quart de la production annuelle. Mais la question que l'on peut se poser, Jérôme, c'est si l'or est un si bon placement que ça. Il ne rapporte rien quand un bien immobilier vous rapporte un loyer et les investissements en bourse des dividendes. Mais voilà, l'or ne peut pas faire faillite. C'est aussi une valeur palpable, réel. Mais attention, lors de la grande crise de 1929 aux États-Unis, le président Roosevelt a pris, comme Donald Trump aime le faire aujourd'hui, un executive order pour obliger tous les Américains à ramener leur or à leur banque pour être vendu au prix officiel. Alors l'or va leur refuge, mais pas intouchable.
Agnès Soubiran, cette hausse de l'or a été enregistrée ce matin. C'est dire si les dernières déclarations du président russe hier n'ont pas apaisé les craintes. Oui, il y a un cessez-le-feu, a dit Vladimir Poutine, mais il faut avant régler des questions importantes. Poutine qui a dans la nuit reçu au Kremlin l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff. Et pendant ce temps, les Ukrainiens, eux, sont plus méfiants que jamais. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyée spéciale en Ukraine et vous avez pu vous entretenir avec des soldats ukrainiens.
Oui, des soldats qui le disent, Jérôme, cette paix, il la faut. Ils ont perdu trop d'hommes, souvent jeunes, éduqués, depuis le début de la guerre à grande échelle, il y a 3 ans. Mais dans le discours de Poutine, hier encore une fois, trop de menaces et de sous-entendus. Impossible de faire confiance aux Russes, explique Dmitro, qui a longtemps combattu sur le front Est, notamment à Barmout.
Non, bien sûr, on y a déjà cru. Et puis à un moment, ils prennent une première pièce, puis une deuxième, ensuite la salle de bain, la cuisine, la cour. Et nous, ils nous disent de rester dans le couloir. Quand même, il y a des règles. Et si on les signe, ensuite, il faut les respecter. Il y a des accords internationaux. Et eux, ils ont violé tous ces accords.
Même chose pour Alexandre, ancien des forces spéciales ukrainiennes, qui se demande maintenant quelle va être la réaction de Donald Trump à l'encontre de Vladimir Poutine.
Trump est rusé, c'est un businessman. Il a passé toute sa vie à faire des négociations. Donc sûrement que c'est lui qui va l'emporter. Et Poutine, c'est plutôt le contre-espionnage, le KGB. Ce n'est pas du tout la même chose. Eux, les Russes, ils négocient avec les armes.
Négocier par les armes. Ce matin encore, l'armée russe dit poursuivre sa progression rapide dans la région de Koursk.
Virginie Pironon avec Yachar Fazilov et Martin Troadec en direct d'Ukraine. Alors qu'en Finlande, le dirigeant d'un groupe paramilitaire néo-nazi et pro-russe a été condamné ce matin à la réclusion à perpétuité pour 4 crimes de guerre commis dans l'est de l'Ukraine. C'était en 2014, accusé avec son groupe de combattants d'avoir tué 22 soldats ukrainiens dans une région pro-russe de l'est du pays. En attendant un éventuel entretien par téléphone dans les prochaines heures, Trump-Poutine, les Européens, eux, tentent d'avancer sur le réarmement. Nous serons dans un instant en Bretagne, où la fonderie de Bretagne dans le Morbihan pourrait être sauvée par cette activité. Mais d'abord, cette réunion ce matin à l'Elysée, Emmanuel Macron avec les principaux industriels français du secteur. Pour investir, il nous faut des commandes fermes, insiste Gabriel Massoni, porte-parole de KNDS, l'entreprise qui produit les canons César.
Ce défi, on est capable de le prendre en compte si derrière on a de la visibilité. On va pas embaucher plus si derrière on donne pas de boulot à nos ouvriers finalement. Il y a 3 ans, on produisait environ 2 canons César par mois. Aujourd'hui, on en sort 6 par mois. KNDS France a investi plus de 600 millions d'euros en fonds propres dans le cadre de cette montée en cadence industrielle. Mais ces 600 millions investis nécessite par définition également une visibilité pour l'industriel.
Voilà pour ce groupe qui produit déjà des armes. Mais est-il envisageable de reconvertir des sites qui aujourd'hui font autre chose? C'est le projet à Caudan, dans le département du Morbihan. Le PDG d'Europlasma, candidat à la reprise de la fonderie de Bretagne avec 240 des 285 salariés, était sur place hier. Et selon lui, l'entreprise a le potentiel à l'avenir pour fabriquer 24 000 pièces d'obus par jour. C'est ce qu'il est venu expliquer aux salariés, Angeline Demeinck.
À la sortie, personne n'a vraiment envie d'en parler.
Demandez d'abord.
Non, merci.
À part Eric.
Ils nous ont vendu pas mal de rêves, ils nous ont vendu des obus.
Des millions d'obus même, confirme le délégué CGT Eric Guyomard.
C'est des volumes très 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 importants. Oui.
Jusqu'à 24 000 par jour.
Les volumes qu'il apporte en armement vont permettre de nous laisser plus de marge pour diversifier la production de la fonderie de Bretagne sur d'autres marchés. Si tout ce qu'il dit, il le fait, il y a un avenir pour la fonderie, clairement.
Le début d'une nouvelle ère donc pour la fonderie. Maël Le Goff est représentant CGT.
Complètement différente parce que l'armement, la défense, on ne connaît pas du tout. Donc voilà, c'est une nouvelle période complète pour la fonderie. Ouais.
Avec la douloureuse question des suppressions de postes.
Ils vont supprimer 45 pour en reprendre 70-80 dans un an et demi. On ne comprend pas trop l'utilité. Surtout en plus, dans son projet de millions d'obus, il nous parle même de travailler le samedi dimanche. Donc ça ne tient pas la route, ces arguments sur l'emploi en fait.
Mais pour les syndicats, pas question de faire la fine bouche.
On nous laisse le choix entre faire ça ou être au chômage.
Résume Éric Guyomard, une nouvelle réunion doit avoir lieu la semaine prochaine.
Reportage ici, Brice Izel. Quand les industriels de l'armement se frottent les mains, les viticulteurs et agriculteurs, eux, s'alarment des menaces de Donald Trump, taxer les champagnes, vins et autres alcools de 200% si la Commission européenne confirme sa surtaxe sur le whisky américain, elle-même en représailles à des surtaxes américaines sur l'acier et l'aluminium européen. C'est ce qu'on appelle une escalade. On attend donc maintenant la réponse des Européens. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Pierre, est-ce qu'on sait quels sont les produits américains que la Commission européenne envisage de taxer cette fois-ci ?
On a déjà une idée assez précise parce qu'une première liste est prête, elle sera d'application à partir du 1er avril. C'est en fait la liste de la première guerre commerciale avec Donald Trump qui renaît de ses cendres. L'UE avait imposé en 18 des droits de douane à plus de 180 produits. Ça avait été suspendu après l'élection de Joe Biden jusque justement au 31 mars 2025. Il y a là des droits de douane qui portent spécifiquement sur l'acier et l'aluminium comme à l'époque, mais aussi des produits symboliques comme moto Harley Davidson, gin, bourbon, jus d'orange, RL ou beurre de cacahuète. Cette liste-là peut être remise en vigueur par la Commission sans autre forme de procès, mais elle ne suffit pas à égaler la valeur des produits européens frappés de droits de douane américains. La Commission prépare depuis plusieurs mois une deuxième liste. Elle a lancé une consultation avec producteurs et consommateurs. Et là, il faudra l'accord des 27 États de l'UE qui devront voter à la majorité. L'objectif, c'est d'appliquer à la mi-avril cette deuxième volée de contre-mesures. Elles porteront en particulier, par exemple, sur le soja de Louisiane, le bœuf et la volaille du Nebraska et du Kansas. L'Union veut, comme en 2018, frapper spécifiquement les produits des États tenus par le Parti républicain ou qui ont voté Trump pour frapper là où ça fait mal.
Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Une maladresse, dit le député insoumis Éric Coquerel. Une affiche maladroite pour l'eurodéputée, elle aussi insoumise, Manon Aubry. Voilà les mots employés pour qualifier l'affiche publiée par le parti La France Insoumise, appelant à manifester dans les prochains jours contre l'extrême droite et figurant l'animateur Cyril Hanouna. On le voit, visage menaçant, en noir et blanc, une représentation du juif maléfique qui, dans l'ombre, contrôle le pouvoir, s'est indigné l'association antiraciste LICRA. Et de fait, l'image rappelle les caricatures antisémites des années 30, ce qui suscite depuis plusieurs jours de nombreuses réactions. Bonjour Maxence
Bonjour.
Lambrecq. Alors cette publication fait-elle débat en interne ? Est-ce qu'il y a des voix dissonantes ?
Oui, sous couvert d'anonymat, ça ne passe pas. Un parlementaire proche de Jean-Luc Mélenchon pourtant nous disait ce matin « Je trouve cette affiche horrible, je cherche depuis à savoir qui l'a fait, qui l'a laissé passer, ce n'est pas possible. » Y aurait-il un moyen de s'éviter un shitstorm à chaque visuel, s'énerve le député Loïc Prud'homme dans une boucle WhatsApp interne révélée par nos confrères de l'Opinion et dans laquelle Émeric Caron affirme que chaque membre du groupe est impacté par ces communications catastrophiques qui se multiplient. Le simple fait que ces échanges aient été rendus publics témoigne d'une rupture, d'un ras-le-bol d'une partie du groupe LFI à l'égard de ces maladresses. Oui, c'est la formule officielle. Ne parlez pas d'erreur. Ce serait concéder un point à l'adversaire, justifie un cadre du mouvement, d'où la réaction hier de Jean-Luc Mélenchon. Choix à notre micro.
Par pitié, lâchez-nous, mais arrêtez avec ce cirque des antisémites et puis les caricatures, le nez trop long, les cheveux sont trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens.
Cette polémique relance aussi les critiques sur le côté gazeux de ce mouvement. Qui valide ces visuels ? Un inculte ou un antisémite ? S'agace une élue, on pourrait quand même en parler avant, dans le viseur notamment la communicante et députée de Paris Sophia Chikirou.
Maxence Lambrecq, dans le département du Rhône, commune de Lucenay, 2000 habitants, nous sommes dans le Beaujolais. C'est la consternation depuis que le village a pris la mise en examen fin janvier d'un père de famille. Il est soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur de nombreux enfants camarades de son fils. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Les faits se seraient déroulés durant 6 ans.
Oui, de janvier 2018 à décembre dernier, c'est la période sur laquelle travaillent les gendarmes de la brigade Danse, partie d'une plainte déposée par les parents d'un enfant. D'autres ont suivi en fin d'année dernière, si bien qu'une information judiciaire a été ouverte fin janvier. Un juge d'instruction est donc saisi. L'auteur présumé est un père de famille de 40 ans. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, précise la procureure de Villefranche-sur-Saône. Cet homme a été mis en examen et incarcéré le 31 janvier dernier. Les soupçons qui pèsent sur lui sont lourds, viol, agression sexuelle, corruption de mineurs, mais aussi enregistrement et détention d'images à caractère pédopornographique. L'instruction doit établir le nombre de ses victimes, plusieurs dizaines selon une source proche du dossier. Les faits ont eu lieu dans un cadre privé, pas à l'école, pas pendant le temps scolaire ou périscolaire selon le rectorat qui ne commente pas l'enquête en cours. Des réunions sont organisées dans la commune de Lucenay pour voir comment accompagner les élèves, les parents, les professeurs de cette école, car l'ambiance jusqu'ici sereine a été impactée par la médiatisation de l'affaire, nous dit le rectorat.
Là, il s'agit de comprendre comment des violences vis-à-vis d'actrices ont pu être commises dans le cinéma pendant des années sans que cela ne suscite la moindre réaction. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur ce sujet doit rendre son rapport dans un mois et elle a connu hier son audition la plus mouvementée, celle de l'ex-agent et producteur Dominique Besnéard. Fanny Humbert, on vous retrouve. Dominique Besnéard a mis en cause devant les députés des actrices ayant accusé le producteur américain Harvey Weinstein ou encore Gérard Depardieu. Et là, le ton est monté.
Oui, il appartient à l'ancien monde, il le dit et il l'assume. Dominique Besnéard, ses 50 ans de métier, directeur de casting pour Jacques Doyon, agent de stars comme Nathalie Baye ou Isabelle Adjani, récemment créateur de la série 10%. Devant l'Assemblée nationale, il réaffirme son soutien à Gérard Depardieu, en faveur duquel il avait déjà signé une pétition en 2023. Il met aussi en cause le comportement de l'actrice Charlotte Arnaud, qui accuse Depardieu de viol. Il aborde également l'affaire Harvey Weinstein et là encore, il minimise.
Weinstein, qui allait à Cannes, certaines actrices allaient dans sa chambre pour peut-être faire une carrière américaine. Je l'ai vu ça. J'ai même des actrices dont je me suis occupée qui sont allées.
Le ton monte face à la présidente de la commission d'enquête, la députée écologiste Sandrine Rousseau.
Il y a un moment donné, ça va.
Non, mais là, vous venez parler.
Si c'est mon procès, je me taille tout de suite.
Vous êtes dans une commission d'enquête, monsieur.
Non, mais une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Le producteur salue malgré tout le mouvement MeToo et plaide pour un meilleur encadrement du métier d'agent. En mars dernier, 2 hommes ont pris la parole dans le Nouvel Obs accusant l'ex-agent d'agression sexuelle, des faits qu'a de nouveau nié Dominique Besnéard lors de l'audition.
Merci Fanny Humbert. Ce qui nous amène à notre rendez-vous régulier avec le procès du présumé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Un procès au long cours et qui se poursuit et qu'on ne lâche pas dans ce 13-14 grâce à vous Charlotte Piret. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Merci de venir nous éclairer à nouveau aujourd'hui. Première question assez simple. Est-ce que Nicolas Sarkozy est toujours concerné par les débats?
Oui, alors pas du tout. C'est une des incongruités de ce dossier. En réalité, il est si tentaculaire que certains volets ne concernent même pas le principal prévenu, Nicolas Sarkozy, qui est d'ailleurs exempté d'audience depuis 3 semaines, alors que le tribunal examine ces millions libyens arrivés en France via des montages financiers complexes et des sociétés offshore.
De quoi parle-t-on précisément?
C'est la partie aride, complexe du dossier, des mots même de l'un des juges, celui qui a fait tableau et schéma explicatif pour tenter d'éclaircir tout ça. Alors on parle du rachat par le fonds souverain libyen d'une villa à Mougin dans les Alpes-Maritimes, plus de 10 millions d'euros. Problème, dans cette propriété, tout est à refaire. La piscine fuit, un arbre est en travers du toit depuis 4 ans, sans parler des installations électriques et de la plomberie hors d'état de fonctionner. En réalité, la maison a été évaluée à moins de 2 millions d'euros. La différence, perçue par un proche de Nicolas Sarkozy, aurait notamment bénéficié à Claude Guéant. Et puis on parle aussi de contrats Airbus, 12 avions vendus à la Libye en 2006 pour 800 millions d'euros. Et on retrouve le même intermédiaire proche de Nicolas Sarkozy, Alexandre Djouri, qui a permis cette transaction, dit-il, moyennant 15 millions d'euros de commission. En réalité, il n'en aurait touché que 2, arrivé sur un compte à Singapour avec la mention « Commission to Friend ».
Avec tout cela, Charlotte, on a quasiment terminé l'examen des derniers éléments du dossier.
Oui, on touche à la fin de ce procès fleuve, hein, c'est ce que vous disiez. La semaine prochaine, le tribunal va faire un dernier tour de table, audition de l'enquêteur qui a travaillé pendant 10 ans sur ce dossier. Dernière question à l'ensemble des prévenus, ce sera le retour de Nicolas Sarkozy notamment. Et puis, ce sera déjà le temps du réquisitoire. Les 3 procureurs financiers vont soutenir l'accusation pour chacun des 12 prévenus. Ils ont prévu pour ce faire 2 jours et demi d'audience.
Merci Charlotte Piret. On vous retrouve donc très régulièrement dans les prochaines semaines jusqu'à la fin de ce procès. Mais où est passée la proposition de loi sur la fast fashion, la mode à bas prix? Ce texte prévoit d'interdire la pub pour la vente de ces vêtements et un malus environnemental pour les rendre moins rentables. Elle a été adoptée à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée il y a tout juste un an. Mais depuis, le parcours législatif a été stoppé par la dissolution et le Sénat ne l'a toujours pas remis à l'ordre du jour. Alors ce matin, des associations, des acteurs du réemploi se sont mobilisés. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Vous étiez sur place, dépôt de 10 tonnes de vêtements devant le Palais du Luxembourg à Paris.
Oui, plusieurs camions défilent devant les grilles.
On a déchargé combien ? 10 ? 10 rolls de textiles.
10 rolls des chariots de sacs poubelles de vêtements usagés qui inondent les ressourceries d'Île-de-France où travaille Pascal.
C'est des tonnes et des tonnes de textiles qui valent rien, qui sont de la fast fashion et dont on ne peut rien faire pour la plupart. C'est de la mauvaise qualité et surtout, il y en a trop, quoi. On est complètement débordés, ouais.
Une montagne d'habits. Les militants déploient un message sur leur banderole « Stop fast fashion », un modèle qu'il faut arrêter pour Valeria Rodriguez de l'association Max Avelar.
Ce tas de vêtements représente la misère humaine au Bangladesh, en Inde, des salaires de misère, parce que c'est comme ça qu'on produit bon marché.
Chaque Français achète en moyenne 40 vêtements par an désormais et beaucoup finissent à l'incinérateur, dénonce Pauline de Brabander de Zero Waste.
C'est 827 000 tonnes par an de vêtements qui sont vendus en France. Il y a encore 10 ans, c'était 600 000 tonnes, plus 40% de vêtements vendus en 10 ans. Du coup, on augmente aussi la quantité de déchets.
Alors, à quelques pas du Sénat, le délégué général d'Emmaüs, Tarek Daher, demande que la proposition de loi sur la fast fashion soit mise à l'ordre du jour. Il pointe le rôle des lobbies.
L'industrie de la fast fashion a des moyens considérables que nous n'avons pas nécessairement. On attend et cette loi est sans cesse repoussée.
Un texte voté il y a un an, jour pour jour par l'Assemblée nationale, vous le disiez, qui prévoit de limiter la publicité pour ces vêtements et un système de malus pour la production de fast fashion.
Merci Rémi Brancato. Et puis des nouvelles du Paris-Nice et du double vainqueur du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard, qu'on avait laissé mal en point après l'arrivée d'hier. Il a chuté lors de la 5e étape hier, eh bien Jonas Vingegaard a annoncé ce matin son abandon du Paris-Nice. Donc après cette chute, c'est son coéquipier l'Américain Matteo Jorgensen qui mène pour l'instant le général arrivé dimanche de cette course au soleil. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, les Baudins avec nous, de leur ferme d'Indre-et-Loire jusqu'aux salles de cinéma, en passant par les plus grandes salles de spectacle du pays. Voilà 30 ans qu'ils nous font rire. Quelle est la recette? 01 45 24 7000 pour vos questions et surtout des témoignages. Appelez-nous. 13h45, la fin de notre feuilleton. Une semaine en prison avec la difficulté d'en construire de nouvelles. Nous sommes toujours à Angers. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Clémentine Blondet du journal L'Équipe et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Clémentine, un anniversaire avec vous. Nous soufflons des bougies.
Exactement, 60 bougies. C'est pas mal, et c'est ce qu'a fait cette semaine le Metz Handball, une institution du sport français.
Et du sport féminin notamment, qui porte le handball très haut depuis toutes ces années. Avec vous Frédéric, un mathématicien.
Et oui, car ce 14 mars, c'est la journée internationale des mathématiques.
Mais bien sûr.
Et c'est donc le choix de Cédric Villani que nous écouterons, grand mathématicien, avec une chanson qui rend hommage à la science et à l'évolution des espèces. Morceau du groupe Nightwish, un groupe de métal symphonique finlandais.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Il est élégant, urbain, fiable et maniable. Son moteur sobre est garanti 10 ans sous condition. Le nouveau Honda HR-V vous attend les 15 et 16 mars chez Honda. Aux portes ouvertes, 2 loyers sont offerts après un premier loyer pour LO à 37 mois sur toute la gamme HR-V hybride, si accord Honda Finance, voire conditions de garantie sur Honda.fr. Pour les trajets quotidiens, privilégiez la marche ou le vélo.
France Inter, partenaire de Anatomie d'un suicide, au théâtre Nanterre-Amandier. Christophe Roque met en scène l'œuvre de l'autrice britannique Alice Birch. Une réflexion intime et universelle sur le poids du destin de 3 femmes. À la fois poignante, bouleversante et d'un humour cinglant, cette pièce inédite en France est composée pour 27 personnages dont les histoires se croisent à travers les époques. Anatomie d'un suicide, du 20 mars au 19 avril, au Théâtre Nanterre-Amandier, un spectacle France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Moins d'averses aujourd'hui, sauf sur le sud-est.
Oui, à l'est
une
du...
Une fois n'est pas coutume.
Exactement, à l'est du Rhône et surtout en Corse, on a toujours ce temps instable avec des averses parfois orageuses, de la neige autour de 1600 mètres, des Pyrénées vers le Languedoc-Roussillon, le Massif central, le Jura, les Vosges, beaucoup de nuages, un petit peu de pluie toujours vers les Pyrénées, quelques flocons en montagne entre 600 et 900 mètres, de l'Aquitaine au Limousin, là les éclaircies sont très belles et puis en remontant vers le nord, c'est plus variable entre éclaircies, nuages, parfois encore quelques averses, notamment près de la Manche et près des frontières du Nord. Les températures sont trop basses pour la saison, 7 à 10 degrés au Nord, 8 à 12 au Sud, jusqu'à 14 près de la Méditerranée et 17 pour la Corse. Demain, on va avoir un temps perturbé sur l'Est et le Centre du pays, avec de la neige sur le relief à très basse altitude et parfois même jusqu'en plaine, de l'Auvergne et du Limousin vers la Bourgogne. On attend 3 à 5 cm vers 300 à 400 mètres d'altitude sur le Nord du Massif central et 10 à 20 cm dès 600 à 800 mètres.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, de 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour les Baudins.
Bonjour.
Mais, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors j'ai que la moitié du duo avec moi ici en studio à France Inter, Vincent Dubois. Bonjour Vincent.
Bonjour Jérôme.
Alias Maria Baudin. Voilà. Et en ligne avec nous Jean-Christian Fraissinet. Bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Il a réussi à lâcher les jupons de sa mère. Ça fait
alias Christian. Mais oui, c'est ça moi qui m'étonne beaucoup. Je pensais que vous étiez toujours ensemble Vincent.
Mais c'est le cas.
Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais ça nous fait du bien aussi. Là il est parti jouer dans une pièce de théâtre sur les routes de France et, voilà, et c'est bien aussi.
À Castel-Sarrazin.
Hein.
Ah, vous êtes à Castel-Sarrazin, Jean-Christian?
Oui.
Fais gaffe parce qu'avec la brioche que t'as, va pas reprendre trop de cassoulet. Hein.
Vous le surveillez?
Oui, c'est sûr.
Oui, je le surveille comme si j'étais sa mère.
Et vous, Vincent, ce soir, vous jouez de la musique, je crois?
Oui, je fais un concert avec un ami à Azelle-Ferron, en Touraine.
Ça se passe chez vous, donc.
Voilà.
C'est à la maison pendant que Jean-Christian se promène. Mais enfin, vous serez côte à côte mercredi. Les Baudins partent en vrille. C'est votre quatrième film ensemble et en salle, réalisation de Frédéric Forestier qui avait aussi réalisé le précédent. Donc on va parler de ce film, on va parler de votre carrière incroyable depuis 30 ans qui vous a mené de votre ferme des Souchons près de Descartes en Touraine. On en parlait jusqu'à remplir les Zéniths de France. 01 45 24 7000. Vous nous appelez si vous faites partie des fans de la première heure ou plus récent. Allez-y, qu'est-ce qui vous plaît dans ces personnages, dans ces histoires? Venez partager avec nous. Vous passez aussi via l'application France Inter. J'ai envie de vous demander quel est votre état d'esprit à quelques jours de la sortie du film. Souvent, les acteurs sont un peu stressés, ils se demandent comment ça va se passer, comment le film va être accueilli. Je pense que vous n'êtes pas du tout stressé.
Non.
Parce que vous êtes lancé dans une présentation, un tour de France d'avant-première. Moi, je lis la presse quotidienne régionale tous les jours, et donc j'ai des nouvelles de vous à peu près toutes les semaines, je sais exactement où vous êtes. Et à chaque fois, je lis, on rajoute une séance, on rajoute une salle, on rajoute une date.
Ben vous avez tout à fait raison.
Il y a une attente.
Il y a une attente et nous, ça nous a rassurés. Effectivement, on ne ferait plus, nous, de films si on ne pouvait pas faire d'avant-première. Le fait de rencontrer les gens et de voir le plaisir qu'on leur donne avec notre film, ça nous a rassurés et puis on sait pourquoi on fait les choses. Voilà.
Pourquoi vous faites toutes ces avant-premières, Jean-Christian? Vous aimez la tournée, finalement? Vous aimez vous promener, rencontrer les gens?
Exactement. Nous, on vient plutôt du théâtre, de la scène. Donc, c'est vrai que les tournées d'avant-première, c'est un bon compromis parce qu'on présente le film, mais pas seulement, on rencontre les gens, on fait des dédicaces, on essaie de faire plaisir à notre public. C'est un contact qui nous manque quand on fait du cinéma, donc c'est aussi pour ça. Et puis c'est très agréable d'aller présenter son film dans toutes les régions de France.
Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens, Jean-Christian?
Ah bah ils nous disent surtout n'arrêtez pas.
Ah, ils ont peur que vous raccrochiez.
Oui, voilà, surtout n'arrêtez pas, vous nous faites du bien, etc. Alors, surtout dans la période assez anxiogène qu'on traverse, on sent que ce type de film, voilà, qui est une grande comédie d'aventure, avant tout faite pour rire, les gens ont vraiment besoin de ça, de cette bouffée d'oxygène, d'aller se divertir pendant quelques heures. Que ce soit au cinéma ou au théâtre, d'ailleurs.
C'est vrai, Vincent, que c'est un film qui sort dans un contexte un peu particulier. Est-ce que ça aussi, vous le ressentez?
Ben nous, en fin de compte, dans ce film, on voulait aborder la désertification des campagnes, parce que l'un et l'autre, on habite la campagne, Jean-Christian dans le Berry, moi en Touraine, et la plupart de nos copains d'école, c'est des agriculteurs, des éleveurs. En ce moment, on a énormément de mails de gens qui nous disent il y a des classes qui ferment dans notre village. On a 10 mails par
jour.
J'en
ai dit un mot, on en parle régulièrement depuis le début de la semaine dans 13-14. La carte scolaire, il y a plusieurs centaines de places.
Là, il y a 17
classes. Ils vous écrivent pour vous alerter.
Oui. Pour qu'on fasse des petites vidéos et qu'on parle de ça. Et nous, on se sent directement concernés par ça, bien sûr, parce que nos enfants, maintenant, moi, j'ai deux filles qui sont grandes, mais nos petits-enfants vont aller dans ces écoles-là. Et bien sûr qu'on est concernés. Puis nous, c'est quand même important qu'on puisse se servir de notre notoriété pour ça. C'est légitime que les gens nous le demandent.
Est-ce que ça s'est produit aussi il y a un an, parce qu'évidemment il est question d'agriculture dans le film, est-ce que ça s'est aussi produit, Jean-Christian, il y a un an au moment du grand mouvement des agriculteurs? Est-ce que vos copains agriculteurs vous ont dit venez avec nous sur les tracteurs, venez jusqu'à Paris, mettez-vous en première ligne, aidez-nous?
En fait, ils n'ont pas eu besoin de nous le dire. Alors, c'était une période où on commençait le tournage du film, justement, donc on ne pouvait pas être aussi
disponible
qu'on aurait voulu.
Ouais.
Disponible qu'on souhaitait l'être, mais en tout cas, ils savent très bien qu'on est à leur côté parce qu'on connaît tous leurs problèmes par cœur, quoi.
Et aller aussi loin, Vincent Dubois, que Karine Lemarchand, par exemple, aller jouer un peu les intermédiaires, interpeller les politiques, les industriels, vous le feriez, ça?
Oui, bien sûr, on le fait. Hein. Dans le film, c'est une façon de le faire. Hein. On se sent les ambassadeurs de ces gens-là, donc c'est pour nous une nécessité de garder le cap, parce que les gens, ils nous aiment parce qu'on les fait rire, mais ils nous aiment aussi parce qu'ils aiment notre parcours, notre façon d'y être arrivé au départ, sans grand renfort de médias, et ça, ils nous le disent, les gens.
Avec, à la force du poignet, avec vos convictions, avec votre travail, jusqu'à donc ce quatrième film qui sort mercredi, Les Baudins se partent en vrille, pour que tous ceux qui nous écoutent aient une idée du thème, parce qu'on a commencé un peu à en parler, l'action se déroule dans votre village, Pouziou les Trois Galoches. On est ensuite au Salon de l'Agriculture, puis au Maroc, où se déroule l'essentiel de l'action. C'est un film comique, bien sûr, mais avec un propos politique. On va écouter les premières secondes du film.
Chers concitoyens, chères concitoyennes, cette usine va créer un nouveau bassin d'emploi.
Le fromage, pour qu'il ait du goût, faut le fabriquer à la ferme, pendant une usine.
Arrête.
C'est vrai.
C'est pas mal, le histoire d'usine, là.
Tu veux les foutre là-dedans?
Cogner ma vie, c'était bonne blague.
Si tu vas travailler dans leur foutue usine, là, qui c'est qui va m'aider à traire les chèvres?
Justement, on va plus avoir besoin de les faire, les fromages. Parce que Mondialacta, ils passent chez nous directement pour récupérer le lait.
Oui, ils vont nous acheter ça des clopinettes, s'engraisser sur notre dos.
Tu vois le mal partout, non? Tu vois, ils vont les vendre, des fromages. Et puis les emballer, les vendre et tout ça. Comme ça, toi, t'auras plus besoin de rien faire.
Il me restera plus qu'à crever.
Voilà. Ça se termine pas comme ça, fort heureusement. Je vais pas tout dire, mais il y a beaucoup de choses déjà dans cet extrait. On a l'agriculture, la crainte de l'industrialisation, de la malbouffe, et puis la désertification, Vincent Dubois, ça c'est quasiment les premières images du film.
Oui,
on voit un village délabré.
Ouais. Et puis aussi que tout n'est pas noir ou blanc, en fait. C'est le fils Baudin, lui, cette histoire d'usine, finalement, ça lui déplaît pas, parce qu'il va pouvoir peut-être lâcher les jupons de sa mère, avoir un salaire, etc. Mais Maria veille au grain, elle a peur, en fait. Elle n'est pas contre la technologie, Maria, mais elle a peur que la technologie chasse l'humanité. Ça, c'est sa grande croisade.
Donc, le film est un débat, finalement, une tension entre les deux personnages, la mère et son fils, pendant tout le long. Jean-Christian Fraissinet, ce sont des débats auxquels vous avez assisté, ou des questions que vous avez pu avoir avec des amis sur... c'est pas mal, des usines qui s'installent, quand même. Même si pour produire en quantité, si ça fait du boulot, c'est bien.
Oui, évidemment. Moi, je suis très bien placé pour en parler, parce que dans mon village, Valençay, dans l'Inde, il y a une énorme usine, une énorme laiterie qui s'est installée et développée depuis quelques années et qui fait vivre plein de familles. Donc, quand c'est bien fait, c'est très bien. Là, pour le besoin de la comédie, évidemment, on a un peu grossi le trait, on a mis le doigt sur un industriel qui veut s'installer un peu assez peu scrupuleux et qui on sent bien qu'il veut faire mourir tous les restes des petits producteurs locaux, et puis qu'il est là peut-être pour empocher quelques subventions et rester 2 ans puis partir. Et en fait, quelquefois, on est malheureusement pas loin de la vérité, quoi.
Avec une présentation en public que je vous conseille, que je vous recommande, qui vous rappellera peut-être des souvenirs si vous y avez déjà assisté à une scène de ce genre. Beaucoup d'appels au 01 45 24 7000. Christophe avec nous. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez Touraine, évidemment.
Oui, tout à fait. Ah, je suis originaire du Berry, à Poulaine.
Bon, ben voilà, les deux cases sont cochées. Vous avez vu le film ?
Oui, oui, tout à fait.
Alors ?
Alors, pour moi, c'est tout à fait représentatif de la vie rurale. Je me revois 60 ans en arrière dans la cour de ferme de ma grand-mère qui avait un troupeau de chèvres et qui vendait aux marchands de lait. Mais on a vu disparaître, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'agriculture est relancée en milieu rural et que les bonins défendent la valeur ajoutée de tous ces gens qui font vivre ce milieu rural. La ruralité est aujourd'hui très dynamique.
Merci Christian pour cet appel de Villaine-les-Rochers. Ça vous dit quelque chose ?
Oui, bien sûr, Villaine-les-Rochers, c'est très joli. Oui. Dans la vallée de Courtineau, c'est magnifique.
On a aussi Yann qui nous appelle de Bonneuil-Matour. Bonjour Yann.
Bonjour.
Alors là, on est dans la Vienne avec vous, Yann, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement.
Alors vous avez fait plus que voir le film ?
Moi, j'ai été figurant dans le film.
Vous pouvez nous raconter ? Ah.
Moi, j'ai été figurant lors du passage de la tentative de montage de l'usine de Mondial Actar dans la commune.
D'accord, donc ça c'est une scène à la fin du film.
Voilà, exactement.
Me semble-t-il. Comment ça s'est passé ?
Bah moi, c'était la première fois que je faisais figurant dans un film et j'étais un peu stressé parce que je savais pas comment ça allait se dérouler un film, etc. Et quand on voit, enfin, quand tout le travail réalisé par les techniciens, le metteur en scène, les comédiens, les figurants et tout ça, c'était vraiment du gros travail et franchement, je regrette pas d'avoir été présent pour ce tournage.
Vous avez pu discuter avec les Bodins, avec Vincent et Jean-Christian ?
On a fait des photos, j'ai des photos dans mon téléphone, donc du tournage, etc. Donc tout ça, c'est resté. Donc ça restera toujours des bons souvenirs à faire et puis à refaire.
Vous n'avez pas encore vu le film ?
Si, je l'ai vu en avant-première à Châtellerault.
Bon, ok. Donc c'est fait pour vous, vous aurez l'occasion peut-être de le revoir. Merci Yann pour votre appel. Comment ça se passe, Vincent Dubois, un tournage ? Ce sont des connaissances, des amis à vous qui sont là ? Il y a quand même aussi une partie de votre famille, enfin, tout cela dans une atmosphère particulière.
Ben, un tournage, c'est 3 ans de boulot entre l'écriture, les préparatifs, les repérages. Et alors après, pour la figuration, là, ils ont été un peu débordés parce qu'il nous fallait de nombreux figurants pour mettre en scène une kermesse à la fin du film. Et en fin de compte, il y a eu un appel de lancer sur la Nouvelle République, le journal local. Et tout d'un coup, ils ont été mais débordés par les événements, ils ont été obligés d'arrêter. On avait des figurants pour faire 3 films, mais ça prouve aussi l'empathie qu'ont les gens pour nous. Ça nous touche beaucoup. Les gens nous supportent, nous aident. Nous, voilà.
C'est toujours une surprise pour vous ?
Oui, c'est toujours une surprise parce que ça se mérite et faut rien lâcher parce que. Dans ce métier-là, ça va parce que nous, on a réussi. Finalement, le succès est arrivé tard et ça nous a mis à l'abri des ennuis. Parce que dans ce métier-là, quand on arrive trop vite, on se croit important. Et dans la vie en général, quand on se croit important, on n'est pas loin des emmerdements.
Mais vous avez cru dans le projet. Jamais vous vous êtes dit, c'est pas bon, c'est ringard, c'est plus ça qu'il faut faire, on n'y arrivera pas, Jean-Christian. Faut changer les personnages.
Oh, Jean-Christian, on a douté. Ça a rien.
Ouais, on a douté, mais en fait, on a toujours été... On a douté, forcément, surtout quand on a commencé à jouer à Paris où le spectacle marchait assez moyennement, mais en province, dès le début, on avait... Vraiment un panel de gens qui nous suivaient, qui a grossi d'année en année. Et c'est ça qui nous a confortés. Et puis les Bodins sont devenus un peu tendance quoi, avec le temps. Et donc voilà, on réunit maintenant. Notre plus grande fierté, c'est de réunir vraiment beaucoup de gens très, très éclectiques en âge et en classe sociale. On a des enfants, des parents, des grands-parents, des docteurs, des ouvriers. Enfin, on a vraiment un public très très large. On vient voir les Bonasses comme on va au cirque en famille, quoi.
Nouvel appel de Marie-Odile. Bonjour Marie-Odile.
Bonjour.
C'est le département 40 et Vincent Dubois aime bien jouer avec les plaques d'immatriculation. Donc 40, on
ah
est
bon
où,
c'est
Vincent?
C'est les Landes. Hein,
c'est les Landes, c'est ça, Marie-Odile. Voilà. De Narros précisément.
Oui,
nous vous écoutons, Marie-Odile.
Ah, écoutez, je suis ravie d'avoir en ligne l'un des Baudens.
Bah, vous avez même les deux.
Parce que... Ouais, c'est bravo.
Bonjour.
En fait, bonjour. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque je vous vois, lorsque je vous entends, lorsque je vous écoute, enfin bref, je revois ce que j'ai vu dans mon village natal. Moi, je suis une enseignante, bon, à la retraite maintenant, mais je revis ce que j'ai vu quand j'étais jeune. Et là, moi, je voulais vous poser une question. Ce que vous racontez, ce que vous, voilà, ce que vous vivez dans vos sketchs, est-ce que c'est du vécu? Est-ce que vous, vous l'avez vécu, ça? Parce que c'est tellement vrai que ça me paraît bizarre que ce soit quelque chose d'inventé.
Merci Marie-Odile, il nous reste une minute.
Oui,
Vincent Dubois.
C'est du vécu, Marie-Odile, parce que l'un et l'autre, nous, on a passé toute notre enfance à la campagne et on y habite encore. Donc, ce qu'on met en scène, nous, des Baudins, on en a croisé plein. Hein, donc, ce qu'on met en scène, on l'a vécu. Je pense qu'on ne pourrait pas faire de spectacle sur la banlieue parisienne. Mais Pouziou, c'est une sorte de banlieue. Hein.
Oui, et puis vous êtes régulièrement en banlieue parisienne, en région parisienne,
oui, bien
pour,
sûr.
Présenter, le,
ah, oui, bien
pour
sûr.
Présenter le film. Jean-Christian, vous jouez toujours au Souchon, tous les étés? C'est toujours
oui, bien sûr. C'est notre grande récréation.
Dans votre ferme,
en fait. Dans la ferme des Souchons à Descartes,
ouais.
En Indre-et-Loire. On fête la 20e saison cette année. Tout le mois de juillet est consacré à ça, aux représentations des Baudins grandeur nature en plein air. Et c'est un succès, on accueille 22 000 personnes tous les étés. C'est plein d'une année sur l'autre, c'est un truc de fou. Ouais. Quoi.
Et c'est déjà plein, je ne redonne pas les dates, c'est déjà plein pour le mois de juillet. En revanche, il y a des places en salle à partir de mercredi. Les Baudins partent en vrille. Merci beaucoup d'avoir été là tous les deux aujourd'hui.
Merci mille fois.
Soyez bons ce soir sur les planches dans le Tarn-et-Garonne, je crois, Jean-Christian Frayssinet, mais on n'a aucun doute. Et vous pouvez aller applaudir Vincent Dubois en concert donc ce soir avant une tournée mondiale, mais ça commence en Touraine. Merci les Baudins d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Merci
13h46 sur Inter. Une semaine dans la vie d'une prison. Suite et fin aujourd'hui, toujours à Angers, les bâtiments de la vieille prison en partie classés. Nous les avons visités en début de semaine, mais nous retournons d'abord à Loire-Authion, près du futur centre pénitentiaire. Le maire Jean-Charles Pronot emmène notre reporter Sarah Guibaudot au bistrot qui a beaucoup à gagner dans ce projet de nouvelle prison.
Allez, qu'est-ce que vous voulez boire? De la limonade j'en ai, mais j'ai pas que ça.
Là, on est au bar L'Escale à Brin-sur-Authion. Je peux savoir votre nom?
Monsieur Bénard, Raphaël, le gérant de L'Escale.
Et c'est peut-être le bureau de tabac le plus proche de la prison,
voilà.
Future alors, prison.
C'est un gros enjeu dans le sens où tous les prisonniers fument, pratiquement tous, et c'est une très grosse partie économique pour nous. Et ça va booster nos ventes, très clairement, si ça se fait.
Et donc le bureau de tabac, officiellement le plus proche de la prison, devient le fournisseur officiel.
C'est une loi napoléonienne et c'est le plus proche par la route qui fournit la prison.
Et alors vous étiez en train de discuter pour savoir si justement est-ce que vous êtes ou vous n'êtes pas...
C'est ça, c'est savoir si c'est nous les plus proches ou si c'est le bureau de tabac de Saint-Barthélemy d'Angers. Ouais.
Deux vitesses, 10-30.
Ça se mesure pas à la route. Après, s'il y a un rond-point qui est un peu plus grand, un peu plus petit, ça peut tout changer pour nous. Parce que là, on parle d'une dizaine de mètres en fait.
De retour à Angers, je fais le tour de la maison d'arrêt et j'aperçois une dame qui promène son chien et avec son caddie. Bonjour madame. Vous habitez à côté de la maison d'arrêt. Comment vous vivez ce voisinage?
Alors moi j'habite en face des maisons d'arrêt et c'est très tranquille. C'est sécurisé parce qu'il y a des caméras partout, donc pour nous c'est génial. Alors de temps en temps, s'il y a des matchs de foot, effectivement, si Angers gagne, on les entend crier, mais comme au foot normal, voilà.
On m'a parlé des drones qui venaient livrer des téléphones, parfois des feux d'artifice. Non, vous n'avez
alors,
pas...
Alors, si, il y a des feux d'artifice quand il s'agit des anniversaires des prisonniers, je pense, mais ça ne dure pas très longtemps. Nous, on vit là depuis 2005. Je ne comprends pas du tout les riverains qui s'inquiètent d'avoir une prison parce que c'est vraiment une sécurité.
Mais c'est vrai, en plus. Hein.
Pourquoi il faut penser aux prisonniers? C'est quand même très vétuste, les pauvres...
J'ai rendez-vous avec l'adjoint au maire d'Angers chargé de la culture,
et voilà.
Qui arrive en vélo. Bonjour Nicolas Duftel. Une vieille maison d'arrêt, monument historique. Alors, est-ce que vous, à la mairie d'Angers, vous avez hâte de la voir fermée ?
Je pense qu'il faut toujours, lorsqu'on parle de ce sujet, y avoir la délicatesse nécessaire. Donc une nouvelle prison, oui, justement, pour que les conditions soient largement améliorées. C'est une prison du temps des Misérables de Victor Hugo que celle-ci. À une époque où la ville n'existait pas en termes d'urbanisme encore, donc la ville a poussé, a grandi autour de ce lieu. Mais juste derrière, je vais vous faire passer par une petite porte qui va nous faire rentrer dans le jardin des plantes. Comment est-ce que nous allons reconnecter la ville avec ce lieu ? Il y a des murs, certains ne seront plus là dans une dizaine d'années, très vraisemblablement. Enfin, on ne peut pas imaginer des appartements dans les cellules telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc ce que nous voulons faire, c'est un projet dans lequel l'art, la culture auront aussi une part. Des ateliers d'artistes, des lieux d'exposition, des lieux d'échange. Beaucoup de prisons en France de cette époque ont été restaurées. Il y a vraiment une grande réflexion et nous, à Angers, nous souhaitons que l'art et la culture soient un des éléments de la réponse.
Sarah Guibaudot pour ce feuilleton en prison, réalisation Stéphane Ronxin. Vous retrouvez tous les épisodes sur franceinter.fr.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France à 13h50, le vendredi, la France du sport avec Clémentine Blondet aujourd'hui. Du journal L'Équipe, Clémentine, vous nous parlez d'une institution du sport français, le Metz Handball, qui fête cette semaine son 60e anniversaire.
Oui Jérôme, et mardi soir, c'était tenue correcte exigée pour les 500 invités au dîner de gala qui célébrait le désormais club sexagénaire. Le terrain des arènes où les handballeuses messines jouent leur match à domicile était cette fois occupé par des tables blanches joliment dressées. Les invités avaient pu réviser leurs connaissances sur l'histoire du club en feuilletant le livre ou en visitant l'exposition consacrée à cet anniversaire. Médecin du club depuis 1989 et président depuis 2005, Thierry Weisman avait évidemment convié des personnages clés de l'histoire du club. Parmi eux, un nom qui vous dira forcément quelque chose, celui d'Olivier Krumbholz.
Bien sûr.
Sélectionneur de l'équipe de France féminine pendant 2 décennies et d'abord...
Entraîneur du club, oui.
D'abord l'entraîneur du club, celui qu'il porta vers son premier titre national en 1989. Écoutez-le parler au micro de nos confrères d'ici Lorraine sur ce que représente le handball à Metz.
Ben Metz a toujours été une ville de handball. Le handball a été beaucoup pratiqué par les Allemands, notamment au handball à 11 entre les deux guerres, sur un terrain de football. Là, ça, il y a peu de gens qui le savent. Et il a pénétré par l'est de la France, en France, le handball. Et quoi de mieux comme ville française que Metz ? Même la fédération a eu ses locaux à Metz. C'est un fief de handball.
On l'a compris, Metz et le hand, c'est une vieille histoire, mais au-delà de sa longévité, à quel point le palmarès de ce club est-il exceptionnel ?
Alors, pour vous répondre, Jérôme, prenons une statistique éloquente. Depuis le premier titre de championne de France des Messines, donc en 1989, les Dragons en ont gagné 25 autres, le reste de la France, 10. À elle seule, la joueuse légendaire de Metz et des Bleus, Isabelle Wendling, en a collectionné 15. On peut donc rapprocher cette domination implacable de ce qu'ont réussi les volleyeuses du RC Cannes, 21 fois championne de France, ou les basketteuses de Bourges, 15 fois sacrées. Ces deux autres clubs mythiques du sport féminin français ont en plus quelque chose qui manque encore à Metz, un et même plusieurs trophées européens. Longtemps distancées à ce niveau, les handballeuses ont atteint 3 fois le dernier carré continental depuis 2019. Et le club a dû progresser pour faire face à la concurrence en France d'un club situé 900 km plus à l'ouest, Brest-Bretagne Handball. Les Bretonnes ont pour elles un budget de 8,6 millions d'euros, quasiment 2 fois plus que les 4,5 millions Laura.
Un budget supérieur donc pour Brest, mais c'est bien Metz qui a remporté les 3 derniers championnats de France ?
Exactement ça, Jérôme. Metz parvient à tenir le choc grâce à son savoir-faire, à la réputation établie d'Emmanuel Maillonnade, le coach du club depuis 10 ans, qui a aussi été champion du monde 2019 comme entraîneur de l'équipe féminine des Pays-Bas. Et évidemment, il y a les joueuses, pour beaucoup membres de l'équipe de France, qui continuent à choisir de jouer en Moselle. On peut citer la gardienne Cléopâtre Darleux, la capitaine Sarah Bouctit, formée au club, ou l'ailière Chloé Valentini. Cette dernière a d'ailleurs profité mardi de la fête des 60 ans pour annoncer publiquement sa grossesse et va donc s'éloigner pour quelques mois du club. Mais Chloé Valentini gardera sans doute un œil sur la suite d'une saison pour l'instant exceptionnelle, puisque toute compétition confondue, son club n'a pas perdu un match depuis septembre. Les Brestoises ont été surclassées d'un but en championnat de France et en 14 matchs de Coupe d'Europe, les Messines n'ont concédé qu'un match nul. Elles n'ont peut-être pas pas fini de fêter leur anniversaire.
Ouais, on verra si elles parviennent notamment à remporter la Ligue des Champions. C'est le grand titre qui manque à leur palmarès. Merci Clémentine Blondet. De C'est la France, c'est une chanson. C'est aujourd'hui la journée internationale des mathématiques de plus 2, Frédéric Pommier. Et à cette occasion, c'est un mathématicien qu'on retrouve à votre micro, Cédric Villani.
Lauréat, il y a 15 ans de la médaille Fields, qui est, dit-on, l'équivalent d'un prix Nobel. Il écoute beaucoup de chansons, Cédric Villani. Il aime Alain Leprest, Jean Ferrat, Catherine Ribeiro. Mais c'est du groupe Nightwish qu'il a souhaité parler, un groupe de métal symphonique finlandais qu'il a vu deux fois en concert.
J'aime bien le fait que ce soit un de mes lecteurs qui me l'ait fait découvrir. Dans mon ouvrage Théorème vivant, c'est sorti en 2013, j'avais mis plusieurs pages consacrées aux musiques que j'aimais. Un jour, je reçois cet email d'un lecteur qui me dit « Voilà, je vous recommande telle reprise de Pink Floyd, puisque vous citez High Hopes. Écoutez-la et vous me direz ce que vous en pensez. » Et c'était une reprise par le groupe Nightwish. Et je suis tombé amoureux de ce style. Et ça a été une vraie découverte pour moi. Mon entrée dans l'univers du métal est l'entrée par la porte symphonique. Avec cet amour du contraste, des mélodies extrêmement mélodieuses et du métal extrêmement métal. Et pour quelqu'un qui a été nourri, entre autres, à la musique de Bach et de Prokofiev, j'y retrouvais certaines des choses que j'aimais bien. Et un an, deux ans plus tard, ils sortent ce grand album « Endless Forms Most Beautiful ». Le titre de l'album est une citation de Charles Darwin et l'album tout entier était consacré à l'évolution des espèces. Alors moi, déjà je les aimais, mais là ça a été l'écho supplémentaire du coup de foudre, si vous voulez. Pour moi, qui ai toujours pensé que l'évolution des espèces était le plus beau de tous les sujets abordés par l'esprit humain, ça a été une révélation.
Qui est sorti ce morceau de Nightwish, Frédéric, son titre, The Greatest Show on Earth.
Traduction, le plus grand spectacle du monde, une chanson de 24 minutes que Cédric Villani adore.
Cette chanson, c'est toute une grande fresque qui nous transporte depuis la création du système solaire jusqu'à notre histoire, l'apparition de l'humanité, après être passé par toutes les étapes de la vie végétale, animale, et ainsi de suite. Et avec différents moments, différents registres musicaux, et des réflexions sur l'avenir de l'humanité, sur la poursuite de la connaissance comme une fin en soi, la compréhension de notre place dans l'univers, c'est un morceau gigantesque et labyrinthique, plein de coins et de recoins.
Et ce morceau gigantesque, il vous met dans quel état quand vous l'entendez ?
D'abord, c'est un état de plénitude quand je l'entends. Il y a la plénitude du son qui est vraiment assumée, la plénitude de tous les ressorts mélodiques, et puis ce plaisir de retrouver les mots techniques, les mots savants. On vous parlera dans cette chanson de la mer dévonienne, on vous parle de l'explosion cambrienne, on vous parle du LUCA, le Last Universal Common Ancestor. Tous ces mots que vous avez appris à apprécier en tant qu'intellectuel, c'est une vraie gourmandise de les retrouver là, comme des petites pépites dans cette œuvre.
Une œuvre qui est truffée de références scientifiques, donc.
Une œuvre truffée de références scientifiques, truffée de poésie et qui nous fait vibrer devant l'évolution des espèces. Petit souvenir de gamin, c'était au collège, invité à l'anniversaire d'une camarade de classe. Et alors que mes petits camarades étaient occupés à danser, jouer, qui sait quoi, moi je suis allé dans la bibliothèque et je me suis dit « Oh, un bel ouvrage ici sur le vivant et le monde des espèces » et je me suis mis à le feuilleter et j'étais bien comme ça. D'ailleurs, les petits camarades respectaient parfaitement ça.
We are going to die, and that makes us the lucky ones. Most people are never going to die because they're never going to be born. The potential people who could have been here in my place.
Vous disiez que à l'écoute de ce morceau-là, vous vous sentiez dans un état de plénitude, et après un concert de métal, vous vous sentez comment ?
Vous vous sentez juste bien. Les notes de musique restent dans votre tête pendant tout le reste de la soirée. Et il y a le plaisir d'avoir rassasié votre faim d'écoute, votre faim de sensation. Et le plaisir de vous être senti en harmonie avec vos frères et sœurs en humanité, si vous me permettez l'expression.
The Greatest Show on Earth par les Finlandais de Nightwish. C'était donc Frédéric, le choix de Cédric Villani.
Cédric Villani, dont je vous conseille le podcast Les Contes des Mille et Une Sciences. C'est à écouter sur le site de France Culture.
Et le résultat, c'était 4, évidemment. Merci Frédéric Pommier.
De plus 2 égale 4.
Je vous dis à lundi, à la technique cette semaine. Merci à Fabrice Desmaz et Philippe Duclos. La rédaction en chef assurée par Cécilia Arbona, Estelle Schmitt, Sébastien Sabiron et Lionel Thompson, assisté de Rachid Zourdani, Carline Desrosiers, Nicolas Sabat et Swad Bellani, je n'oublie pas notre chargée de programme, Claire-Sophie Collet. Ça fait presque peur, dit comme ça.